Le haut commissaire au monde d'or, Jacques Billon, tient à rassurer sur le dispositif de sécurité qui a évolué ces derniers jours. Il parle d'un dispositif adapté. 8 pêcheurs vanuatais et leur embarcation portée disparue au large des Romangos. Le COSNC et les FANC participent aux recherches. Les apprentis de la Chambre de métiers ont découvert leur nouveau lieu de formation ce matin. Ils poursuivent leurs études dans les locaux de l'ancienne école Maurice de Vambay à Rivière-Salée. La place des femmes au sein des organismes législatifs de la région. Laura Vendégou a participé en Nouvelle-Zélande au rassemblement de 29 femmes parlementaires venues de tout le Pacifique. Et puis du football dans la page sport. Etigasport démarre la O-League par une victoire en football. Les Calédoniens ont battu les Tahitiens de l'AS Vénus 1-0. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'État souhaite rassurer les habitants du Mont d'Or sur leur sécurité. Et Jacques Billon s'est rendu sur place cet après-midi. La semaine dernière, le haut-commissaire avait validé la suppression du verrou nord situé à l'entrée de Saint-Louis. Une mesure qui a fait réagir l'association citoyen mondorien, le maire et de nombreux habitants, alors que les actes de délinquance se sont intensifiés ces derniers jours. Vous avez suivi cette visite du haut-commissaire, Léana Colombo, et Jacques Billon parle désormais d'un dispositif de sécurité adapté.
Oui, tout à fait, Jean-François. L'association Citoyens Mondoriens et la mairie du Mont-d'Or avaient effectivement déploré cette décision du Haut-Commissariat, d'autant plus à la veille des vacances scolaires, période durant laquelle les risques de troubles à l'ordre et des actes de délinquance sont traditionnellement plus importants. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Plusieurs véhicules ont été volés, d'autres incendiés ou encore caillassés. Et en réponse, l'État avait déclaré être pleinement mobilisé pour assurer la sécurité des Calédoniens. Le commissaire Jacques Billon avait confirmé l'adaptation du dispositif de renfort des escadrons de gendarmerie mobile déployés sur le territoire. Ainsi, 14 véhicules blindés nouvelle génération seront déployés dans les prochains jours en Calédonie et notamment dans le Grand Nouméa pour répondre aux besoins actuels. Le commissaire a également confirmé un renfort de 600 gendarmes, ce qui donne actuellement 1800 gendarmes opérationnels sur le territoire. Les principaux mots d'ordre: s'adapter, mais aussi être mobile pour répondre présent partout et le plus souvent possible afin d'être plus dissuasif. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs procédé cet après-midi à de nombreuses opérations de contrôle au Mont d'Or où je me situe actuellement. Des opérations qui se poursuivront toute la nuit et même les prochains jours. Nina Julier, maire du Mont d'Or, était présente aux côtés du haut-commissaire et du commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Aouchin. Elle s'est dit satisfaite de la réponse de l'État, mais annonce rester vigilante. Un point de situation entre la maire du Mont d'Or, la gendarmerie et le haut-commissariat devrait d'ailleurs avoir lieu en fin de semaine pour connaître les premiers résultats de ce dispositif de sécurité adapté. Si besoin, des modifications pourront être apportées, annonce le haut-commissaire Jacques Billon. Depuis Boulari au Mont d'Or, Léana Colombo, RRB.
Merci Léana. Les actes de délinquance se sont donc multipliés depuis plusieurs jours. La nuit dernière encore, une voiture volée a été incendiée à Saint-Michel. Une crèche a été cambriolée. Cette recrudescence intervient donc après que le verrou nord de Tabor ait été levé et que plusieurs escadrons de gendarmerie ont quitté le territoire. Alexandre Buisset, le porte-parole de l'association citoyen mondorien.
On est vraiment exaspéré de ce qui se passe actuellement. On s'est bien rendu compte que depuis que le dernier verrou a été levé il y a quelques jours, les exactions se multiplient. Malheureusement, nous, on pense que c'était prévisible. Il y a eu effectivement plusieurs véhicules brûlés. Il y a eu un bus il y a deux jours. Cette nuit, il y a encore eu un véhicule qui a été brûlé. Il y a eu des cambriolages. Il y a une crèche qui a été cambriolée cette nuit à la briqueterie. On a eu des caillassages. C'est pas des faits isolés, c'est des faits qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Quoi. L'association Les Citoyens Mondoriens, actuellement, ils n'en peuvent plus. Quoi. Ils vivent vraiment sous un stress permanent. Et ça, c'est vraiment une situation qui ne peut plus durer. Quoi. Et c'est vraiment trop compliqué pour l'ensemble de la population. Et on est très inquiet sur la situation et la réponse qu'on nous apporte au jour d'aujourd'hui.
Et l'association souhaite avoir une présence accrue des forces de l'ordre sur le terrain pour plus d'efficacité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. La diminution progressive des effectifs d'escadrons de gendarmerie mobile déployés en Nouvelle-Calédonie vous semble-t-elle justifiée ou vous inquiète-t-elle? Si elle vous semble justifiée, vous tapez 1. Si cela vous inquiète, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. L'État est vigilant quant aux besoins de financement de la Nouvelle-Calédonie, déclare Amaury de Clude. Le directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie était en effet notre invité ce matin à 7h30, Elisabeth Noir.
Le directeur de la mission interministérielle qui termine un séjour de 3 semaines en Nouvelle-Calédonie et nous l'avons d'abord interrogé sur la situation financière critique du territoire alors que le président du gouvernement a déclaré que l'on est en cessation de paiement. Amaury de Kloot confirme que les 13 milliards que l'on cherche sont bien prévus dans la loi de finances.
L'État, dans la loi de finances pour 2026, prévoit un financement de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 51 milliards de francs CFP, 44 milliards de prêts, 7 milliards de subventions. Aujourd'hui, 16 milliards de ces francs pacifiques ont été décaissés. C'est une somme considérable qui permet de financer le budget des collectivités, la retraite, le RUAM. Donc aujourd'hui, il y a dans la marge, dans les financements de l'État restant prévus, pour financer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ces financements font l'objet de discussions avec le président et nous avons une réunion demain pour pouvoir avancer et permettre un décaissement d'ici la fin du mois.
C'est-à-dire que les 13 milliards qu'il faut trouver, on les a?
En tout cas, ils sont prévus en loi de finances.
Alors quel est le problème en fait? Il y a quand même, la Calédonie a quand même des problèmes de financement importants, notamment d'ici la fin de l'année, il va falloir trouver encore quelques milliards.
Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle ne dépend que de l'État. Pour son financement, les banques commerciales ne lui prêtent plus, contrairement à d'autres collectivités, notamment par exemple aux provinces et aux communes. Donc aujourd'hui, l'État est vigilant quant aux besoins de financement de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif étant de faire en sorte que dans l'enveloppe qui est prévue en loi de finances, la Nouvelle-Calédonie puisse se financer son système social et son budget.
Le directeur de la mission interministérielle va préparer le déplacement de la mission transpartisane qui doit se rendre à Paris prochainement. Il s'agit de trouver les moyens pour terminer l'année 2026 et pour préparer le budget 2027, mais au-delà, l'objectif est d'atteindre en 2030 un rétablissement des comptes publics. Interrogé sur les réformes lancées par la Calédonie, Amaury de Kloot souligne qu'il y a notamment deux textes intéressants sur le bureau du Congrès, la réforme du RUAM et la réforme des retraites, qui vont, dit-il, dans le bon sens. Et concernant la filière nickel, il relève l'autorisation d'exportation de minerais adoptée par le Congrès, une avancée qui permet, selon lui, de confirmer l'intérêt de certains repreneurs, l'occasion justement de faire le point sur la reprise des 3 unités métallurgiques.
S'agissant de PRNC, l'État est en première ligne, il bénéficie d'une fiducie de la part des autres actionnaires. Les négociations sont bien avancées avec un repreneur qui est un fonds émirati. S'agissant de KNS, l'État n'est pas actionnaire de KNS, nous ne sommes pas en première ligne. Et ensuite, s'agissant de la SLN, l'État est un actionnaire important d'Eramet, qui est l'actionnaire de la SLN. Et à ce titre, on engage des discussions avec une entreprise métallurgique indienne qui s'appelle Jindal, qui vient en Nouvelle-Calédonie cette semaine.
Que regarde l'État concernant les repreneurs qui sont intéressés par les 3 usines finalement de Nouvelle-Calédonie ?
Alors, ce qui est primordial pour nous, c'est d'éviter un projet de reprise qui, au bout de 2 ans, s'avère non viable. Donc d'abord, la première chose, c'est la crédibilité du projet industriel. La deuxième chose, c'est qu'on a la conviction qu'il est essentiel que la Nouvelle-Calédonie conserve une industrie métallurgique. Donc le deuxième objectif, c'est assurer le maintien de la métallurgie sur le territoire calédonien. Troisième objectif, il y a des intérêts qui sont financiers et stratégiques pour la Calédonie, l'État et l'Union européenne. Il ne faut pas oublier l'Union européenne qui a une stratégie pour les métaux critiques. Et évidemment, ces intérêts, on doit les préserver pour la Nouvelle-Calédonie, pour la France et pour l'Union.
Ça veut dire que l'État pourrait éventuellement s'opposer à certains repreneurs si ces conditions n'étaient pas réunies?
Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut d'abord discuter sur les projets de reprise.
Et vous avez des éléments qui vous font dire qu'il va y avoir des repreneurs pour les 3 usines?
Sur SLN et PRNC, on sait qu'il y a des repreneurs. Les discussions sur PRNC durent depuis de longs mois. Donc ça veut dire qu'on a un intérêt dans les discussions qu'on mène avec le repreneur potentiel NBM. S'agissant de SLN, il y a eu un courrier du ministre de l'Économie et des Finances qui accepte d'engager des discussions avec l'Indien Jindal. S'agissant de KNS, là-dessus, on lit la presse, on voit qu'il y a des projets de reprise. J'ai un échange prochainement avec le président directeur général de la SMSP pour en discuter.
Lors de son séjour, le directeur de la mission interministérielle a pris contact avec les élus issus des élections du 28 juin. Il a pu échanger également sur le terrain, notamment autour des opérations mises en œuvre dans le cadre du plan de relance.
Et cette interview d'Amaury de Kloot est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Un dispositif d'arrêt de la circulation dans le col de la pirogue. Il va être mis en place par la DI3T au niveau de l'Atamois à Païta. Ce dispositif s'inscrit dans la poursuite de la sécurisation de la RT1 au niveau du col de la pirogue. Après l'installation de séparateurs en béton au milieu de la chaussée afin de prévenir les collisions frontales, le nouveau dispositif est composé de feux rouges clignotants, d'un signal de danger lumineux et d'un panneau à message variable. Il permettra en cas d'accident ou d'incident grave de stopper temporairement la circulation dans le sens Tontouta-Nouméa afin de faciliter et de sécuriser l'intervention des services de secours entre Port-Laguerre et la tribu de Saint-Laurent. Ce dispositif pourra être déclenché à tout moment en cas d'accident ou d'incident nécessitant l'arrêt de la circulation. Le gouvernement précise que des tests opérationnels seront réalisés pour vérifier le bon fonctionnement de ce dispositif. 17h57, la première pause de ce journal. Nous en viendrons ensuite à ces recherches menées pour retrouver 6 pêcheurs vanuatés disparus au large des Romango. À tout à l'heure.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, et 6 pêcheurs sont toujours portés disparus au large de l'île de Tana, au Vanuatu. Leur embarcation partie vendredi soir d'Eromango, Léo Fichou, n'est jamais arrivée à destination.
Oui, c'est le COSNC qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage avec les autorités vanuatuaises. 3 vols ont été effectués hier par les FANC, permettant de couvrir 5 zones de recherche, des recherches qui restent pour l'heure infructueuses. Elles se poursuivent aujourd'hui. Un gardien et un CASA sont actuellement engagés dans une nouvelle mission aérienne. Écoutez les précisions de Théa Blanchard, elle est la directrice adjointe du COSNC.
Au moment où on reçoit l'alerte, cela fait plus de 24 heures que ce navire n'a pas donné de signe de vie. Dans un premier temps, il a fallu établir les zones de recherche adaptées, notamment s'appuyer sur une simulation de dérive que nous avons fait produire par Météo France. Des zones de recherche ont été réparties entre les différents moyens. Les recherches se poursuivent à la fois à terre, pour vérifier toutes les hypothèses où ces marins auraient pu rejoindre l'une ou l'autre des îles, et à la fois par un vol de CASA qui est actuellement en cours dans la zone. Comme la dernière position connue date de vendredi, au niveau des modèles de dérive et du temps passé, les zones commencent à être particulièrement importantes. À partir de demain, les probabilités de les retrouver et la zone de recherche vont s'étendre encore, donc ce sera décidé ce soir en fonction des résultats de la recherche de cet après-midi.
Les opérations se poursuivent donc aujourd'hui au Vanuatu pour retrouver l'embarcation et les 6 marins disparus depuis vendredi soir. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment celui d'une dérive de l'embarcation ou bien d'un chavirement.
Le Petitchou a repris la mer ce matin. Depuis plusieurs jours, le bateau rencontrait un souci technique sur l'un de ses groupes électrogènes qui a contraint la Sudil à reporter sa reprise d'activité après la période de carénage. Après plusieurs jours de réparation, des essais ont été réalisés hier avec le bureau Veritas. Et les affaires maritimes ont également donné un avis favorable pour la reprise de la navigation. Un soulagement, même si cette panne va continuer d'engendrer quelques difficultés pour la clientèle, nous a dit Édouard Castin, c'est le directeur de la Sudil.
L'état de vétusté du bateau nous fait faire face à des pannes imprévues en permanence. Et en fait, après, la population qui est très demandeuse de voyage en ce moment, puisqu'il y a des mariages, comme vous savez, se retrouve coincé à Nouméa. On ne peut pratiquement recaser personne. Le planning est complètement rempli et les bateaux sont complets. Donc à chaque fois qu'on perd une rotation, en fait, on ne peut pas recaser les gens. Donc c'est très compliqué à gérer. Alors il y a des gens qui annulent. Dès qu'il y a des places qui se libèrent, on essaye de replacer en priorité les gens qui ont des urgences. Mais voilà, on est vraiment la face à la situation pour laquelle on alerte depuis plus de 5 ans, hein, avec des projets qui sont dans les tuyaux pour renouveler le bateau. Je pense qu'il est vraiment urgent qu'on puisse lancer un projet de renouvellement du bateau pour éviter ce genre de situation.
La rotation Nouméa Lifou Ouvéa a pu être opérée aujourd'hui. Le retour dans l'autre sens est prévu demain. Et puis toujours au chapitre des transports, Air Canada annonce de nouvelles modifications de vol en raison d'un problème technique sur l'un de ses A330neo. La compagnie reprogramme sa rotation Nouméa Paris Nouméa. Le vol SB500 qui devait partir la nuit dernière à 1h de Tontouta ne partira qu'à 19h ce soir. Il arrivera en métropole à 11h20 demain. Le vol retour SB501 décollera à Paris à 15h demain pour atterrir à Tontouta jeudi à minuit. Changement de décor pour les 177 apprentis du CFA. Depuis ce matin, c'est à Rivière-Salée qu'ils suivent leur formation dans les locaux de l'ancienne école Morissette devant Belléo.
Oui, après la destruction de leur centre de formation à Nouville, c'était en mai 2024, les apprentis du CFA avaient été accueillis provisoirement au Mont d'Or dans les locaux de l'école Adolphe Boutan à Yaoué. Désormais, direction Rivière-Salée. Vous l'avez dit, pour les apprentis, ils ont pu visiter les locaux ce matin. Une première impression plutôt positive pour les apprentis qui vont devoir vite prendre leur marque.
J'ai commencé la formation sur Nouville. Après, il y a eu les exactions. On a été déménagé sur Yaoué et maintenant, on est arrivé à Rivière-Salée. J'ai eu un peu de réticence au début et en fait, non, en vrai, ça va. Je suis passé plusieurs fois déjà dans le quartier, donc ça va.
C'est une bonne chose. C'est pas mal. C'est plus grand. C'est plus structuré. mieux accueillis, quoi.
On a fait la grande visite, c'est très beau, on a des grandes salles, on a plein de salles. On nous a dit qu'ils allaient installer notre poste de coiffure pour l'année prochaine, donc on est content.
C'est assez favorable pour nous, vu qu'ici, comparé à Yahweh, c'est un peu plus grand, ça va, j'apprécie. Juste la petite difficulté, c'est pour trouver à manger, il n'y a plus de magasin.
Puis on est plus près de Nouméa, c'est juste que voilà, c'est nos ateliers sont un peu plus éloignés, mais voilà, c'est pas mal, hein. Faire avec, hein, c'est la formation qui compte.
La semaine dernière, la Chambre de métiers de l'artisanat et la mairie de Nouméa ont signé une convention pour officialiser cette nouvelle implantation. Implantation pour une durée de 6 ans renouvelable. Une installation qui apporte surtout de la stabilité aux apprentis, se réjouit la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière.
C'est une grande satisfaction. Il n'a jamais été fermé. Hein. C'est juste un changement de lieu. On vient s'installer sur un site très grand avec de la végétation, avec des équipements sportifs et avec un nombre de salles importantes qui vont nous permettre eh bien, de mettre en place directement nos ateliers sur site. Nous allons réinstaller la coiffure, l'esthétique, certainement un atelier de boulangerie et pourquoi pas de boucherie dans quelques temps. L'objectif, c'est de conserver ce site même quand notre centre de formation sera reconstruit. Parce que nous souhaitons développer ce que nous avons déjà mis en place en début d'année, c'est la prépa alternance. C'est une préparation avant de rentrer en formation qui accueille des jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi et qui ont le plus besoin d'être accompagnés pour pouvoir après rentrer dans les formations et arriver au terme de ces formations professionnelles.
Le loyer a été fixé par la mairie de Nouméa, un montant symbolique de 1 000 francs par mois. En parallèle, la CMA poursuit ses projets de reconstruction de son CFA à Nouville, prévu pour 2029.
Et d'autre part, la CMA poursuit aussi son accompagnement financier aux artisans. Désormais, les démarches sont simplifiées. Le fonds de financement de la formation des artisans est attribué immédiatement lors de l'inscription auprès du CFA. Grâce aux différentes aides et remises, les bénéficiaires ne règlent que les 20% du coût restant de leur formation dans la limite de 60 000 francs par entreprise. Une aide financière sera également versée aux participants de la foire de Bouraille, mais aussi du salon Saveurs et Traditions et du salon Bat Expo. Enfin, la CMA va récompenser ses artisans primés lors de concours internationaux. Ils recevront 20 000 francs par médaille ou prix attribué hors du territoire. Une aide plafonnée à 60 000 francs par personne. Ils sont calédoniens et poursuivent leurs études en métropole, certains dans des grandes écoles. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Quel retour d'expérience? Ils viendront témoigner demain dans le magazine Citoyen que vous retrouverez à la fin du journal à 11h30. 4 jeunes seront en plateau avec nous, ainsi que Françoise Roamsim de l'association Prépa NC. Et puis, autre rendez-vous demain matin sur RRB à 7h30. Nous recevrons Tiphaine Leclerc, la nouvelle présidente de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants en Nouvelle-Calédonie. Elle nous parlera de son engagement et de ses missions. Au Mont d'Or, les vacances scolaires ont commencé sous le signe du sport et des loisirs. La ville a lancé aujourd'hui son nouveau dispositif gratuit destiné aux jeunes de 6 à 17 ans et à leur famille, Léo.
Oui, c'est la première édition de ce dispositif, les vacances 100% Mont d'Or, porté par la mairie et le service des sports en partenariat avec les associations de la commune. Il vise, je cite, à lutter contre l'oisiveté pendant les vacances tout en créant davantage de rencontres. Écoutez Félix Kelly, il est éducateur sportif au service des sports du Mont d'Or.
Pour pas qu'ils traînent dans les rues et qu'on les occupe pendant les vacances. Du coup, il y a pas mal d'associations qui ont joué le jeu pour être présents. Et après, on a fait appel aussi à des prestataires pour mettre des activités. Du coup, on met des choses en place. On a ouvert de 6 à 17 ans et voire plus. Le dispositif K4 Move, où ils ont la possibilité de faire du sport gratuitement via cette plateforme. On a la chance avec beau temps par rapport aux dernières semaines où c'était plus vieux. Voilà, les vacances commencent bien.
Du BMX, du roller ou encore du football, des échecs et du workout. Au parc de la Coulée, les jeunes ont eu le choix aujourd'hui. Ils étaient plus d'une cinquantaine pour le lancement de ce dispositif.
Et là, on était au courant qu'il y avait des choses ici. Du coup, on est venu.
Et donc, quand vous jouez aux échecs, qui c'est qui mène?
Ah bah là, c'est moi.
Bon, on est venu s'amuser. Ben, c'est très bien, là, on attend pour aller jouer à laser game.
Très sympa, avec tous mes amis que je viens juste de rencontrer, c'est très bien.
Bah, j'ai commencé par le volley, après on a fait les châteaux gonflables et je m'amuse bien. Bah, c'est sympa, c'est bien, c'est cool, c'est une journée cool.
Le dispositif vacances 100% Mont d'Or est gratuit, tout comme les navettes mises en place depuis plusieurs lieux de la commune. L'inscription est tout de même obligatoire sur le site mondor.nc.
Laura Vendégou, de retour de Nouvelle-Zélande, où elle a participé à Wellington au rassemblement de 29 femmes parlementaires venues de tout le Pacifique. Un wananga, selon le terme maori, qui a duré 3 jours et qui a permis d'évoquer la place des femmes au sein des organes législatifs de la région. Cette rencontre organisée par le Parlement néo-zélandais a rassemblé des élus venus de 11 États et territoires du Pacifique qui ont pu échanger leurs points de vue et leurs expériences. Laura Vendégou en a profité pour mettre en avant les avancées de la condition féminine dans la société calédonienne, avec notamment l'application de la loi sur la parité.
Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés, tels que la prise de décision, l'influence du changement, la confiance dans les relations avec les médias, la santé des femmes, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que la vie politique. Donc plusieurs thématiques qui concernent pratiquement tous les parlementaires du Pacifique. Ce que j'en ai retiré, c'est que la Nouvelle-Calédonie, on est très chanceux d'être un territoire français, dans le sens où nous sommes régis par la loi de parité de 2000, qui fait que pour les élections, on a un homme pour une femme, et qu'à l'heure actuelle, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est composé de 27 femmes élues sur 54, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour tous les parlements du Pacifique, qui pour certains n'ont aucune représentante féminine, ou entre 2 ou 3 femmes parlementaires en leur sein.
L'objectif de cette rencontre était aussi de renforcer les réseaux de femmes parlementaires à l'échelle régionale et de partager sur les problématiques qu'elles rencontrent. Laura Vendégou a été touchée par certaines problématiques.
L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir déjà se rencontrer en tant que parlementaire femme du Pacifique et de voir quelles sont les problématiques que chacune d'entre nous avons rencontrées dans nos parlements respectifs et de voir quelles solutions pour certains ont posé ou pour d'autres qui ont fonctionné ou pas fonctionner du tout. Et ce qui avait été aussi également intéressant, c'était dans cette conférence d'avoir bien sûr les témoignages de parlementaires néo-zélandaises, surtout concernant le harcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. C'est vrai que c'était des témoignages qui étaient très, très intéressants et aussi également très touchants.
Et pour l'élu du Congrès, les Calédoniennes sont sur la bonne voie, mais ce n'est que le début d'un long processus. Il reste encore beaucoup à faire pour une prise de conscience de la voix de la femme du Pacifique.
Le bilan aussi que je peux retirer de cette expérience, c'est que malgré le fait que nous avons une moitié de femmes au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, cela ne veut pas autant dire que véritablement la place des femmes est assurée. Il y a aussi également un gros travail à faire pour la prise de conscience des voix de la femme et de son importance et de sa démystification et qu'elle puisse se poser et que les femmes, peu importe où est-ce qu'elles habitent, qu'elles soient en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient à Tonga, Samoa, et ben que ces femmes, elles ont la liberté de s'exprimer et de faire ce qu'elles souhaitent engager.
Et lors de cette rencontre, Laura Vendégou a également présenté les différents dispositifs territoriaux et provinciaux qui mettent en lumière les défis de la condition féminine calédonienne. Elle souligne que tout ce qui a été accompli jusqu'ici est en majeure partie le résultat d'un système égalitaire et républicain parce que la Nouvelle-Calédonie est française. Il est 18h10, la dernière pause de ce journal et on se retrouve pour l'actualité sportive dans un instant en football. Tigasport a bien entamé sa campagne en Euroleague par une victoire ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite de ce journal, c'est donc l'actualité sportive avec du football d'abord sur la scène régionale. On retrouvera peut-être Ismaël dans un instant. C'était aujourd'hui le coup d'envoi de la Haut Ligue. Premier match de la phase de groupe ce lundi pour Tigasport, Léo.
Et les vainqueurs de la Super Ligue affrontaient l'AS Vénus, champion de Tahiti. Un match très équilibré qui a finalement tourné à l'avantage des Calédoniens. Victoire sur le plus petit des scores, 1-0. Un but signé Jean-Yves Saïko à la 88e. L'attaquant de Tiga était entré en jeu quelques minutes auparavant. Et c'est Shen Welepan qui a été élu homme du match. Écoutez.
Ils se sont déjà soulagés. Avec la victoire, ça fait du bien. C'était très difficile aussi avec cette équipe de Venise qui a proposé un bon jeu, un bon rythme. Alors nous, on a eu un projet de jeu, on l'a respecté et puis voilà, ça a payé.
Dans l'autre match du groupe, le tenant du titre, Auckland City, s'est imposé 2-1 sur les Salomonais de Central Coast. La deuxième journée est prévue jeudi avec un choc donc entre Tiga et Auckland à 11h, suivi de Central Coast AS Venus à 14h.
La natation, une délégation calédonienne était présente au championnat jeune du Queensland en Australie avec de nombreuses belles performances pendant la fin de la semaine dernière. Nous avons d'ailleurs fait le point avec leur encadrant Stéphane Delande.
Je citerai d'abord les performances de Chris Andersarda qui s'est vraiment illustré ici. En battant deux records du Queensland de 17 ans, dont un qui appartenait à Cameron McEvoy, donc sur 50 et 100 dos, et une meilleure performance française, donc 18 ans, sur le 50 dos, et puis 7 courses nagées, 6 titres, une médaille d'argent. Donc voilà, Chris Ander s'est très bien illustré ici, après les championnats d'Europe réalisés au début du mois de juillet. Pour ce qui est du reste de la délégation et des plus jeunes, Anaë Delande, elle confirme son très bon niveau avec plusieurs médailles également sur 400, sur 800, nage libre notamment. Donc elle revient avec 5 médailles, 3 d'or, 1 argent, 1 de bronze. Chez les plus jeunes, Kimani Leka également, 13 ans, s'illustre, en repartant avec différents podiums. Et puis Aliki de Laval également, en dos, sa spécialité. Là aussi, où il s'illustre en gagnant une belle médaille d'argent sur le 100 dos.
De nombreux records personnels ont été battus par nos jeunes nageurs qui ont profité d'une belle expérience face à des nageurs étrangers. Les Calédoniens restent dans le Queensland cette semaine pour participer à un stage de natation. À propos de natation élite, ce sont les championnats d'Europe qui débutent ce soir. Le Calédonien Maxime Grousset, même s'il est en convalescence après une blessure au pied, sera bien engagé. Il doit prendre part dès aujourd'hui à Paris aux séries du 50 mètres papillon. Et puis le judo se prépare pour les prochains Jeux du Pacifique et poursuit son développement au profit des meilleurs pratiquants. Notre invité ce midi était Gilles Arbulot, le président de la Ligue calédonienne de judo. L'occasion de faire le point sur le processus de sélection engagé en vue de la prochaine grande échéance, les Jeux du Pacifique à Tahiti 2027.
Sur la composition de l'équipe, on l'a quasiment en tête parce qu'on se connaît tous ici. Pour autant, il est certain que si on veut ramener des médailles et si on veut les couleurs les plus intéressantes, l'or, il faudra rapatrier nos judokas qui sont en métropole. Et les Jeux, nous, c'est l'or qui nous intéresse. On veut aller bien sûr gagner à Tahiti, ça c'est notre mission. Donc pour ça, ça passera que par le retour des expatriés. Alors bien sûr, il est question de faire revenir aussi Alexis Mathieu. Une double assurance de faire une médaille, hein, là il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, est-ce qu'il aura la disponibilité? Parce qu'après, lui, il cherche aussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais on est dans des zones concurrentes. Mais c'est sûr que si on veut de l'or, il faudra ramener les expatriés. Parce que on a des bons judokas pour faire des podiums, mais peut-être pas pour faire de l'or.
Oui, par ailleurs, le président de la Ligue calédonienne de judo nous a annoncé qu'un médaillé olympique serait prochainement de passage sur le territoire. Larbi Ben Boudaoud, champion français du monde en 1999 chez les moins de 66 kilos et vice-champion olympique à Sydney en 2000. Il viendra à la rencontre des clubs et des licenciés calédoniens pour la fin du mois d'août. 18h15, c'est la fin du journal. Il nous reste encore à voir la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Alors on va commencer, Ismaël, par prendre des nouvelles du temps prévu dans les heures qui viennent, c'est-à-dire pour la soirée et la nuit.
Et oui, et on commence déjà avec ce bulletin, on l'ouvre du moins, avec aucune vigilance particulière. Et ce soir, la soirée est étoilée, puis le ciel se charge sur la moitié nord de la Grande Terre, où quelques gouttes sont possibles. Les températures ce soir, elles restent proches des 10 degrés à Lifou et Marais, mais remontent légèrement sur la Grande Terre, entre 13 et 17 degrés, et localement 18 à 20 degrés sur le nord.
Voilà donc pour ce soir et cette nuit. Et demain matin, à quoi faut-il s'attendre ?
Eh bien, les nuages présents au réveil se dissiperont rapidement, laissant la place à un large soleil. Des petits nuages s'accrocheront sur l'est où quelques gouttes seront attendues. Le vent, elle sera souvent variable faible et il sera de 5 à 10 nœuds de secteur est sur la pointe nord et de secteur nord-est sur la pointe sud. Et du côté des températures sur la journée, elles resteront stables et comprises entre 23 et 26 degrés.
Merci Ismaël, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité en métropole et dans le monde. C'est le journal d'Europe 1 et à 18h30. Ce sera l'invité d'Europe 1. Jacques Serret reçoit aujourd'hui Philippe Brun, qui est député socialiste de l'Eure. Bonne soirée à tous.